14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il m'arrive de regretter de ne pas suffisamment insister dans le cadre de cette émission sur le quotidien des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire. En évoquant l'essor du tourisme au 19e siècle, eh bien, je vais tâcher aujourd'hui de remédier à cette lacune. On l'oublie volontiers, mais avant l'invention du chemin de fer, voyager relevait au mieux de l'aventure, au pire, du cauchemar. Par exemple, se déplacer loin de chez soi au début des années 1800 n'est pas sans danger. Dites-vous que jusqu'en 1815, les voyageurs peuvent toujours s'attendre à voir surgir les armées napoléoniennes ou les armées des coalisés contre Napoléon. La proximité des troupes, que ce soit les troupes prussiennes, anglaises, autrichiennes ou donc françaises, cette proximité ne décourage pas forcément les touristes et même on peut dire que pour certains, elles ajoutent du piquant à l'expérience. S'ils se trouvent aux environs d'un champ de bataille, il arrive que certains voyageurs parcourent ensuite le champ en question à la recherche de souvenirs de guerre. La peur ne leur est pas toujours épargnée. Ainsi, le romancier William Thackeray, vous savez, l'anglais Thackeray, a donné une description assez saisissante de la ville de Bruxelles. C'est dans La Foire aux Vanités, c'est publié en 1847, La Foire aux Vanités. Il décrit les touristes et les civils complètement terrorisés par l'approche des armées napoléoniennes qui s'arrachent chevaux et voitures au bruit de la canonnade, tout en escortant les armées des coalisés. Les guerres napoléoniennes, aussi curieux que ça puisse nous paraître, n'ont pas empêché les touristes anglais de visiter le continent. Lorsqu'on dit touriste anglais, à l'époque, c'est quasiment un pléonasme. Les Anglais bougent, voyagent, s'aventurent davantage que les autres. Ceux qui en ont les moyens font la traversée de la Manche à bord de bateaux à vapeur et ils n'hésitent pas à emmener avec eux les cochers, dames de compagnie, bonnes d'enfants et tout le personnel. D'abord, on s'arrête à Amsterdam, qui est la troisième ville d'Europe après Londres et Paris, où on trouve les mille et un objets qui vont constituer les souvenirs à rapporter et à offrir, des carreaux de faïence, des cartes, des livres, des pierres semi-précieuses dans leurs gangues originales, et bien sûr, puisqu'on est en Hollande, des oignons de tulipes. Les touristes ensuite vont s'embarquer sur des bateaux à vapeur qui descendent le Rhin jusqu'à Cologne. Et à partir de Cologne, alors là, on prend la route, et les routes à l'époque sont encore chaotiques.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Avant le 19e siècle, les voyages étaient largement réservés aux jeunes gens de bonne fortune qui entreprenaient le tour de l'Europe pour faire leur éducation et faire aussi de bonne fortune dans l'autre sens du terme. C'est ce qu'on appelait le grand tour à l'époque. Et ce tour, il se faisait essentiellement en Italie. On allait admirer la tour penchée de Pise, les églises de Florence, après s'être attardé sur les canaux de Venise et avant d'aller voir Naples et les ruines de Pompéi. Aucun musée, aucune grande collection de l'époque n'échappe à l'attention de ces visiteurs consciencieux. Ils engagent des guides dont ils attendent aussi qu'ils leur apprennent les rudiments de la langue du pays et on étudie tout ce qu'on peut étudier de beau, de grand pour se parfaire d'une certaine manière. On étudie l'art, bien sûr, et l'architecture, mais aussi la musique, par exemple. Les voyageurs de l'époque s'en retournent chez eux, les malles chargés de peintures, de gravures et de fragments de statues. On fait le grand tour, c'est d'ailleurs le dernier des Médicis qui, lassé de voir passer tous ces gens qui faisaient le tour, a fini par les appeler les touristes. Voilà comment le mot est né. Évidemment, quand apparaît le chemin de fer, les choses vont complètement basculer. C'est très, très différent. Le chemin de fer apparaît dans les années 1830. Il se généralise dans les années 1840 avec des lignes qui, au début, sont conçues comme d'amusantes nouveautés et qui, bientôt, vont connaître une intense exploitation. Dites-vous qu'en 1870, il existait quand même en Europe quelques 100 000 kilomètres de voies ferrées. Ça en faisait du voyage possible, ça. En 1871, un tunnel de 13 km est même percé sous les Alpes et on peut désormais voyager avec, d'abord, dans une certaine condition de confort, et puis on voyage vite, et la sécurité s'est beaucoup améliorée. Vers 1870, les wagons-lits font leur apparition. 10 ans plus tard, certaines voitures seront carrément aérées, pour ne pas dire climatisées, et puis le célèbre Orient Express permettra, en 1888, de relier Calais à Constantinople dans des conditions de confort jusqu'alors totalement inimaginables. On peut dire que le réseau ferroviaire, à ce moment-là, aux alentours des années 1900, au basculement du siècle, le réseau ferroviaire relie à peu près toutes les villes du continent. Alors, il y a ces grandes gares, bien sûr, aux architectures parfois audacieuses, qui veulent rappeler d'une certaine manière, dans une version, disons, métallique, les cathédrales du Moyen-Âge. Et il y a dans ces bâtiments quelque chose d'universel, qui, symboliquement, est représenté par les grandes horloges marquant partout la même heure. C'est l'heure de l'Europe, si je puis dire. Alors, inutile d'épiloguer sur les conséquences du développement du chemin de fer sur les modes de transport et hippomobile. Au XVIIIe siècle, le réseau routier n'a pratiquement pas changé depuis l'époque romaine. Enfin, il s'est amélioré, évidemment, il s'est un petit peu densifié, mais pas considérablement. L'armée de Napoléon ne se déplaçait pas sensiblement plus vite que celle de Jules César. Alors, on a fait de grands efforts pour rendre les voyages en diligence plus rapides, on a augmenté le nombre des chevaux. Vous savez qu'il y a des diligences qui avaient jusqu'à 8 chevaux, hein, ce qu'on appelait un train de 8 chevaux, c'était considérable. On a disposé tout le long des routes des relais de poste, bien sûr, qui permettaient de changer ces chevaux. Il n'empêche que c'était un voyage qui était très fatigant, on était complètement ballotté dans ces voitures, c'était un voyage par ailleurs dangereux. D'abord, les voitures en question pouvaient toujours, il y avait des trains de roues qui se... des essieux qui cassaient, donc les roues versaient, comme on disait, les voitures versaient, c'était très dangereux. Les routes principales ne comportaient qu'une bande étroite de pavés dans le milieu, donc ça veut dire que le moindre chaos pouvait vous envoyer d'un côté à l'autre de la voiture, et on ne pouvait pas se croiser à deux voitures, sauf à risquer d'ailleurs de finir au bas-côté. C'est donc tout un mode de vie extrêmement ancien qui d'un seul coup va disparaître avec le train. La diligence ne peut plus lutter, que voulez-vous, contre le train. Une diligence mettait une journée pour faire 45 km, le train avale cette distance en moins d'une heure. Bon, ben voilà, c'est plié, si je puis dire. Le train va vite exercer sur les populations du 19e siècle une véritable fascination. Et vous savez que pendant longtemps, l'arrivée d'un convoi dans une gare avec ses panaches de vapeur extrêmement spectaculaires, c'était un événement auquel on venait assister, un peu comme on assistera plus tard à l'atterrissage d'un avion. Edith Biret interprétait « Ce chemin de fer » de Charles Valentin Alcan, une page composée en 1844, en plein essor des chemins de fer.
Vous écoutez Radio Classique.
Comme me le faisait observer pendant cette interruption musicale, Yann, qui réalise cette émission aujourd'hui, il y avait aussi, bien sûr, parmi tous les dangers qui pouvaient guetter les voyageurs des siècles passés, il y avait les bandits, hein, ces brigands de grand chemin qui pouvaient vous attendre au coin d'une route. Alors, évidemment, avec le temps et avec le développement de la police au tournant du 19e siècle, on rencontrait quand même de moins en moins de bandits. Mais c'est vrai que toutes ces routes n'étaient véritablement pas sûres. Et puis alors, les auberges dans lesquelles on s'arrêtait à chaque étape étaient parfois un peu, comment dirais-je, infestées de punaises, par exemple. Bref, le chemin de fer va remédier à tout ça. Il rapproche les villes entre elles, mais il a aussi tendance à rapprocher la ville de la campagne. Et ça annonce une évolution des mentalités, bien entendu. On va pouvoir satisfaire maintenant sa curiosité ou son envie de voir du pays, comme on dit. C'est dans cet état d'esprit qu'évolue par exemple Gustav von Aschenbach, le célèbre personnage de Thomas Mann dans « Mort à Venise ». Je cite Thomas Mann. « Il lui fallait une détente, un peu d'imprévu de flânerie, l'air du large, qui rafraîchirait le sang pour que l'été fût supportable et donnât des fruits. Il voyagerait donc, soit. Il n'irait pas trop loin, pas jusqu'au pays des tigres. Une nuit en wagon-lit et un farniente de 3 ou 4 semaines dans quelques stations cosmopolites du riant midi. Ainsi allait sa pensée, tandis que le rapprochait le bruit du tramway venant par la Untergasse. En montant, il décida de consacrer la soirée à l'étude des cartes et des indicateurs. Et oui, ça fait partie du voyage et c'est partie intégrante du tourisme que le rêve. Bien sûr, on voyage presque autant sur les cartes que l'on parcourt des yeux avant de s'embarquer qu'à bord des bateaux et des trains. Les voyageurs qui prennent le train en quête du sublime et du pittoresque ont presque tous sous le bras le guide Baedeker. Alors ça, c'est la Bible du touriste, dont la première édition remonte à 1829. La plupart des voyageurs ont également avec eux des albums à dessin. Vous savez qu'on fait beaucoup d'aquarelles, notamment à l'époque. Des filets à papillons, du matériel pour sécher les fleurs. Alors pour les dames, eh bien évidemment, il faut quand même respecter les convenances, ce qui veut dire qu'on voyage avec des robes à crinoline, etc. Autant dire qu'il faut des malcabines assez volumineuses. Enfin, pour les plus aisés des voyageurs qui jouissent des raffinements de la première classe, eh bien évidemment, on a tendance à emporter une partie de la maison avec soi. Évidemment, quand on est en troisième classe et qu'on est sur les banquettes en bois, là, généralement, on voyage plus léger, vous voyez. Les touristes envoient des cartes postales aussi à ceux qui n'ont pas pu les accompagner. Ça va être un énorme essor de la carte postale. On rapporte de chaque pays ce qu'il a à donner de mieux. Alors de Suisse, on rapporte des horloges, bien entendu. De France, on a tendance à rapporter quelques bouteilles de vin ou des tours Eiffel miniatures à partir de 1889, bien sûr. Les voyageurs occupent leur journée à se promener par les villes, se promener dans la nature. On privilégie le séjour chez l'habitant, puisque, encore une fois, je vous dis que les hôtels n'étaient pas forcément très confortables et que leur prix était souvent exorbitant. En préparant cette émission, Jérémy Bigori a été frappé par l'importance des carnets de voyage qui ont été laissés par les premiers touristes. En voici un exemple sous la plume de la romancière anglaise George Eliot, qui n'est pas du tout contente de son séjour à Weimar. D'une façon générale, les voyageurs anglais étaient souvent mécontents de l'accueil qu'ils recevaient des continentaux. Je cite donc George Eliot. Les maisons mal alignées formaient des rangées indéfiniment étirées, interrompues par des arbres dont les branches dépassaient timidement les clôtures des jardins minuscules. Nous nous arrêtâmes enfin devant Erbprinz, une vieille auberge située au cœur de la ville, et après avoir attendu que se dissipe la rêverie dubitative du portier qui ne savait pas si nous pourrions obtenir des chambres avant le départ de sa seigneurie, nous fûmes conduits le long des corridors oppressants, au bout desquels il nous fit entrer dans une chambre donnant sur un jardin comme on peut en trouver, attenant à une ferme dans n'importe quel village anglais. On a envie de dire, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la peine de voyager si loin pour découvrir si peu. La bourgeoisie va s'illustrer, si je puis dire, va s'épanouir. D'une certaine manière, elle va s'accomplir dans le tourisme au XIXe siècle. Elle est la classe montante, elle est la classe désormais dominante. Un certain nombre de dames aux revenus confortables visitent les capitales de l'Europe et tous les sites qu'on leur vend à longueur de brochures et de gazettes. Elles séjournent volontiers dans les villes d'eau et dans les stations balnéaires. Il y a ce film de Louise May Alcott, vous savez, les quatre filles du docteur March. Ça, c'est en 1868. Où l'on découvre l'Europe par les yeux de l'héroïne Amy qui, de passage à Paris, décrit le Palais Royal en termes dithyrambiques. C'est un véritable paradis, tellement rempli de bijouterie et de choses ravissantes que l'idée de ne pas pouvoir acheter toutes ces choses me fait perdre la tête, écrit l'héroïne. Ah oui, quand on voyage, on perd volontiers la tête. Vous avez reconnu l'entraînante ouverture de la vie parisienne de Jacques Offenbach. L'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Némé Hiervi.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Évidemment, grâce au progrès du tourisme, c'est une véritable industrie qui est en train de naître, hein, bien entendu, avec un personnage étonnant qui est le parfait exemple, disons-le, du self-made man. On pourrait consacrer une émission entière à Thomas Cook, originaire d'un modeste milieu et qui va fonder une agence de voyage incroyablement prospère. Il faut vous dire qu'il a eu l'idée de faire ça au moment des différentes expositions universelles, et notamment de l'exposition universelle de 1867 qui va drainer un public considérable de l'Europe entière vers Paris. Ses affaires vont prendre une telle ampleur qu'en 1880, il en vient à acheter les navires, vous savez, les bateaux à aubes qui voguent sur le Nil. Il est également propriétaire, Thomas Cook, du funiculaire sur les pentes du Vésuve. Le succès est dû au fait que ces voyages ne sont relativement pas chers, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens. Ceux qui participent au voyage Cook se sentent à l'abri des inconvénients, des hasards que présentent tous ces jours à l'étranger, quand il faut soi-même trouver des guides, trouver une chambre d'hôtel confortable, savoir où l'on va déjeuner ou dîner. Ah, à partir de Cook, on se décharge de tout cela sur l'organisateur. Et oui, c'est la naissance des voyages organisés. Alors, tout le monde ne voyage pas dans le luxe. Hein. On n'est pas à bord de l'Orient Express avec Cook. Il est interdit de boire du vin pendant les repas, parce que Cook est un militant anti-alcool, tout simplement. Et il arrive aux voyageurs de dormir sous la tente lorsque l'agence Cook n'a pas trouvé d'hébergement suffisant. Bref, ça fait partie du plaisir du voyageur, comme de participer du reste à la vie mondaine. Le touriste de marque, quand il arrive dans une ville importante, dépose sa carte chez le consul, qui représente son pays, ça, on ne sait jamais, hein, c'est quand même plus prudent. C'est une façon d'annoncer son arrivée, d'une certaine façon, et qui d'ailleurs, souvent, lorsqu'il s'agit d'un voyageur de marque, est annoncé par la presse locale. Et à ce moment-là, vous êtes invité aux soirées, aux bals, aux représentations de théâtre où se rassemble la bonne société. Et quand le riche voyageur se lasse de la vie mondaine, eh bien, il se rend dans une station thermale pour tonifier son organisme fatigué des soirées passées au bal ou à l'opéra. La ville la plus courue par l'aristocratie de l'époque, vous la connaissez sans doute, c'est Jérémie Bigori qui nous dit que de toutes les villes vers lesquelles se presse la bonne société d'Europe, celle qui attire le plus de monde, c'est Baden-Baden. Il faut dire que la reine Victoria en personne y vient avec sa famille régulièrement. Quant à l'empereur Guillaume Ier, il passe 12 étés consécutifs à partir de 1871 à Baden-Baden, où on prend des bains dans des édifices dont les fondations en tout cas remontent à Caracalla. L'eau étant la plus chaude d'Europe, elle est évidemment très, très vivifiante, très extraordinaire. Elle prend sa source à quelques 2000 mètres de profondeur. On comprend qu'elle soit chaude. Les curistes participent ensuite à tous les agréments qu'on a prévus pour eux, comme la première de l'opéra de Berlioz, Béatrice et Bénédicte. Ça, c'était le 9 août 1862, au moment de l'inauguration de l'opéra de la Goetheplatz. Le casino contribue fortement à faire de Baden la capitale d'été de l'Europe, avec une décoration qui est due aux mêmes artistes que ceux qui ont œuvré à l'opéra de Paris. Tous les styles sont représentés dans les différentes salles. Les jardins, qui sont parsemés de grandes fontaines, sont tout simplement splendides. La fondation de l'Empire allemand en 70 a entraîné, en 71 pour être très exact, a entraîné la fermeture du casino, qui était la plus ancienne maison de jeu du continent, et l'ouverture d'un établissement thermal grandiose qu'on appelle le Friedrichsbad et qui est destiné à donner à la ville un caractère plus respectable que les maisons de jeu. Il y a une région qui doit son nom aux importantes mines de sel qui sont là dans les environs, c'est la Salzkammergut, où la grande station de Bad Ischl est constamment prise d'assaut par les touristes très aisés là, venus de l'Europe entière. Même chose à Salzbourg, qui elle aussi, Salzbourg comme nous disons nous, hein, qui doit son nom au sel. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette région, dans ces régions autrichiennes? Eh bien, on fait des promenades sur les lacs en bateau. Ça n'a pas changé, ça me direz-vous. On fait des excursions dans la montagne, on assiste à des concerts, et oui déjà, et à des représentations théâtrales, et puis on joue aux cartes quand on ne joue pas à des choses un peu plus galantes. Évidemment, il y a toutes sortes d'amourettes et toutes sortes d'aventures qui se tissent et se nouent dans les luxueux hôtels de la région comme le Post ou l'Austria, qui reçoivent les têtes couronnées de l'Europe entière. Il y a une autre station thermale, c'est Karlsbad en Bohême, qu'on appelle Karlovy Vary aujourd'hui, en République tchèque donc, hein, et qui est célèbre pour héberger des gens aussi fameux que Goethe, Beethoven, Tourguenieff, Tolstoï ou Paganini, et même Wagner.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je ne vous ai pas encore parlé de la Côte d'Azur, qui bien sûr va bientôt être un des lieux privilégiés avec la cession de Nice à la France par l'Italie au tout début des années 1860 et l'ouverture du casino de Monte-Carlo où les touristes affluent. Et alors là, on peut dire que ce sont des sommes d'argent considérables qui changent de main. Généralement, elles sortent des mains des visiteurs pour entrer dans la banque du casino. C'est comme ça que ça se passe. Alors à l'extérieur, on profite du beau soleil, bien entendu, en faisant attention quand même à ne pas s'altérer le teint pour les dames. Il faudra attendre Coco Chanel et les années 20, pour pas dire 30, hein, après en tout cas la Première Guerre mondiale, pour que l'on puisse imaginer l'idée de se faire bronzer. Les Anglais sont les premiers, vous le savez, à séjourner à Nice. Ils vont marquer la ville de leur empreinte. D'ailleurs, on parle toujours de la promenade des Anglais, évidemment. En novembre 63, une compagnie internationale met sur les rails le premier train bleu, magnifique train bleu, entre Calais et Nice. Alors là, inutile de vous dire que les Anglais ne sont pas les derniers à sauter dans le train bleu. Pour ceux que les régions plus méridionales peuvent encore attirer, eh bien, on traverse les Alpes. Entreprise encore un peu hasardeuse à l'époque, jusqu'en 1871, les cols se passent à pied ou à dos de mule, vous imaginez ça. Les voyageurs passent la nuit chez les moines de l'ordre de Saint-Bernard, bien entendu. Après une lente montée dans le froid et le brouillard, les couvents ont l'avantage d'être propres. Ce n'est pas le cas de toutes les auberges, je vous l'ai dit. Certains voyageurs qui ne veulent pas se séparer de leur berline berline les font complètement démonter et porter dans des caisses sur les chemins de montagne. C'est une pratique qui était courante sur la route de Lyon à Turin en passant par le Mont-Cenis. Hein. Évidemment, tout ça va être facilité, le voyage va être facilité par le percement du premier tunnel. Je vous en ai parlé, 1871. Le tourisme n'en est pas moins toujours réservé à une certaine élite, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en tout cas vraiment jusqu'au congé payé de 1936. En France, les gens d'origine modeste néanmoins commencent à s'offrir un peu de vacances et puis on commence à vouloir faire comme les riches touristes et à découvrir le vaste monde, à se cultiver, à s'amuser et tout simplement à se prouver qu'on n'est pas fixé, vissé dans son sol natal.
Vous écoutez Radio Classique.